À Rencontre spirituelle aujourd'hui, l'un des jeunes saints de l'Église au XXe siècle les plus intéressants, sinon le plus intéressant. Il y a une foule de jeunes qu'on nous présente et parfois on n'est pas tellement intéressé par leur vie, mais celui-ci est remarquable, c'est le bienheureux Pier Giorgio Frassati de Turin qui est mort à 24 ans en 1925. Un jeune homme moderne, un jeune homme cultivé, sportif, alpiniste, engagé auprès des pauvres, audacieux, courageux, équilibré, tout à fait normal, vraiment un type sensationnel, un modèle à suivre, qui est né le 6 avril 1901. C'est pourquoi je le fais aujourd'hui, car il est mort lundi 6 juillet 1925, durant l'été, et comme il n'y a pas d'émission Rencontre spirituelle en été, je le fais le jour de l'anniversaire de sa naissance, le 6 avril 1901. En fait, il est mort le 4 juillet 1925, puis il a été enseveli le 6 juillet à Turin. C'est d'ailleurs au jour de ses funérailles, devant le porche de l'église de la Crocetta. Il y avait une foule nombreuse qui attend et qui était recueillie parce qu'il était très populaire. On y voit là toutes sortes de gens. Hein. Il venait de famille bourgeoise, il était fils d'ambassadeur. Ambassadeur à Berlin, en Allemagne, pendant un certain temps. Son père, d'ailleurs, était un incroyant, un agnostique. Donc, il y avait là des bourgeois. Il y avait des ouvriers, parce qu'il s'en est beaucoup occupé. Il y avait des dames de l'aristocratie, sans doute des amis de sa mère. Puis, des femmes du peuple, qui l'aimaient beaucoup. Des étudiants de l'université de Turin. Des vieillards de l'hospice aussi, où il allait les aider. Tout à coup, un remous, un grand silence. C'est quand sont arrivés sur le parvis un groupe de 8 solides jeunes gens de ses amis, qui portent sur leurs épaules un cercueil massif. Et l'émotion se lit sur le visage de ces 8 jeunes gens, parce que la dépouille mortelle qu'ils emportent, c'est celle d'un ami merveilleux, le plus populaire. Cependant, au fond de leur regard, on peut voir, paraît-il, une flamme de fierté, hein? Comme si leurs épaules promenaient triomphalement la chasse d'un saint. Et c'est la chasse d'un saint de 24 ans. Qui est donc celui que l'on porte comme ça? Le 13 avril 1980, il y a moins de 20 ans, le pape Jean-Paul II va dire de lui, en le béatifiant, « Il suffit de jeter un regard, même bref, sur la vie de Pier Giorgio Frassati, consumé en à peine 24 ans, pour comprendre comment il a su répondre à Jésus-Christ. Répondre à Jésus-Christ. Ce fut la réponse d'un jeune moderne, dit le pape, ouvert aux problèmes de la culture, des sports, un alpiniste de valeur, aux questions sociales, aux véritables valeurs de la vie, et en même temps, d'un homme profondément croyant. Nourri du message évangélique, au caractère ferme et cohérent, se passionnant au service des autres et brûlant d'une ardente charité qui le menait selon un ordre de priorité absolue aux côtés des pauvres et des malades. Et le pape termine en disant « Le christianisme est joie. » Comme il a raison. « Le christianisme est joie. » Pier Giorgio était d'une joie fascinante, une joie qui surmontait aussi tant de difficultés dans sa vie. Car le moment de la jeunesse est toujours un moment d'épreuve de force. Parce qu'il a été confronté à la possibilité du divorce de ses parents. Il a eu bien d'autres épreuves, je vous en raconterai. Donc Pier Giorgio Frassati, qu'on appelait à l'italienne le fils de la fête, est né à Turin Le samedi 5-6 avril 1901, il y a 97 ans. Au soir, il est né le soir. Sa famille est aisée de la bourgeoisie du Piémont, donc. Vous voyez, le Piémont, c'est dans le nord de l'Italie, c'est même plus haut que le sud de la France. Son père sera pendant quelques années ambassadeur à Berlin, comme je vous ai dit, et Pier Giorgio mérite des qualités, il hérite plutôt des qualités et des défauts de ses compatriotes, dit-on, qui seraient, selon certains observateurs, je les connais pas assez pour pouvoir me prononcer là-dessus, énergique, volontaire, têtu. Des belles qualités pour faire des saints, ça. Mais, on dit assez peu communicatifs. Ils sont de plus économes. Ben, ça permet de ramasser de l'argent pour les pauvres. Même s'ils n'ont pas peur des charges de famille, ils aiment bien les enfants. Ils les aimaient. Mais aujourd'hui, l'Italie est dans le même deuil que nous. Presque pas d'enfants. Ils sont positifs et réalistes, avec un certain esprit d'aventure. D'ailleurs, les Italiens du Nord, tout près de la France, sont comme ça, n'est-ce pas, dit-on. Et là, la droiture innée de Pier Giorgio, enfin un ennemi du mensonge, il déteste le mensonge. Ce genre de gars, quand il donne sa parole, il change pas d'idée. Aucune force au monde, pas même sa faim de loup, ne lui ferait toucher d'un mets ou d'une friandise qu'il sait à la portée de sa main quand il est enfant. Parce que sa mère lui en a fait la défense formelle, alors il obéit. Il est ferme, il est têtu. Il sait se contrôler, quoi. Parce qu'il est têtu. Curieux, hein? Comme quoi, ce qui pourrait être un défaut devient une grande qualité. Et de plus, il a un profond sentiment de compassion qui le porte à soulager toutes les souffrances qu'il voit. Il prend parti sans hésiter pour les faibles. Un jour, il se rend avec son grand-père à l'école maternelle, au moment du repas de midi. Alors, Pier Giorgio est fasciné par les longues tables de marbre. Vous savez, le marbre en Italie, il y en a partout. Où sont creusés les emplacements des écuelles, là, les espèces de plats très pauvres, très simples. Et tout à coup, il aperçoit au fond de la salle un enfant qui se tient par des autres parce qu'il a une maladie de peau. Alors Pier Giorgio Frassati s'approche de lui. Puis, faisant comme une espèce de jeu, il distribue une cuillère pour moi, une cuillère pour toi, une cuillère pour moi, une cuillère pour toi. Puis il efface du visage du petit la tristesse de la solitude. Il a le don de communiquer avec les enfants les plus malheureux. Pier Giorgio Frassati n'a que 5 ans lorsqu'un jour, à la maison, son père renvoie sur le pas de la porte un pauvre ivrogne qui sent trop l'alcool. Et Pier Giorgio s'approche en pleurant de sa mère et dit « Maman, il y a un pauvre qui a faim et papa ne lui a pas donné à manger. » Sa mère, très chrétienne, qui a l'impression de reconnaître un passage de l'Évangile, dit tout de suite à son fils « Cours dehors, Pier Giorgio, fais-le monter et nous lui donnerons à manger. » Mais ce qui fait le charme de cet enfant n'est pas sans ombre. Son physique vigoureux, sa personnalité énergique, s'extériorise souvent par des réactions violentes. Il sent chaud. Surtout lors des chicanes avec sa sœur Luciana, plus jeune que lui, d'un an et demi. Puis, elle lui lance souvent une certaine injure dans sa bouche. C'est « Têtu, tu es têtu. » Bon, c'est ce qu'elle lui décoche le plus souvent en famille. Quand il veut pas parler, il ferme la bouche comme un coffre-fort. Et c'est lui seul qui en détient la combinaison. Il garde le silence afin de ne pas dire de choses qu'il regretterait. Ce qu'il reçoit, c'est une éducation sans mollesse. L'éducation qu'il reçoit au foyer. Ça aide, ça, à corriger les défauts. Pier Giorgio Frassati est d'une intelligence, disons, un tout petit peu lente, mais énergique. Il sait s'épanouir et s'affiner jusqu'à devenir peu à peu un gars fier et adroit. Il vient à bout de toutes les difficultés dans les études au lycée. Puis, Plus tard, à l'école d'ingénieur de Turin, où il étudie le génie. Curieux, hein, pour quelqu'un qui a des ambitions de sainteté. Vous allez voir, c'est que l'étude devient pour lui ce qui est le plus important. Toute autre occupation doit céder, mais la bataille est rude pour son tempérament bouillant. C'est un supplice que de se figer pendant des heures devant des manuels, quand sa passion de la montagne, hein, le pape l'a bien dit tout à l'heure qu'il était un bon alpiniste, sa passion de la montagne aurait si vite fait de l'amener à partir en excursion puis quitter ses manuels, mais les difficultés sont pour lui une occasion d'ascension morale. Car en face de l'épreuve, loin de baisser les bras, là, c'est un gars qui se ressaisit. C'est un gars qui se remet à l'ouvrage avec courage. Mais c'est surtout dans la foi, une vraie foi, là, pas une foi, une vraie foi. Puis la prière, une vraie prière solide, là, qu'il puise sa force. Dès sa plus tendre enfance, Pier Giorgio Frassati est fidèle à faire à genoux ses prières du soir, puis du matin. Il se met au chapelet. On le verra plus tard d'ailleurs, partout, égrené des dizaines dans le train, au chevet d'un malade, en se promenant en ville ou en montagne. Il aime à s'entretenir avec celle qu'il considère comme sa mère du ciel. Et il le fait comme ça, en lui répétant qu'il admire sa mère du ciel, qu'il l'aime. Et ça nous rappelle l'émission que je vous ai faite sur John Main le 30 décembre, hein, sur la prière répétitive, Saint Jean Climac aussi, qui est à l'origine de ça, il y a des siècles et des siècles et des siècles. Hein. Mais il y a plus important, c'est la relation directe qu'il établit avec Dieu, qui lui donne une maturité exceptionnelle. Hein. Les gens sont frappés par sa manière à lui, simple et décidée, de vivre son catholicisme. Il n'a pas d'ostentation chez lui. Pas du tout, aucune prétention, aucun orgueil, c'est une sécurité tranquille, une grande fierté sans heurts, et aussi une douce intransigeance. Une douce intransigeance. Vous allez voir comment il est intransigeant, mais merveilleusement intransigeant. C'est Jean-Paul II qui disait... Le 13 avril 1980, Pier Giorgio nous montre ce que signifie vraiment pour un jeune laïc donner une réponse concrète au « Viens et suis-moi ». Vous savez, Jésus qui dit « Viens et suis-moi », puis on tout reste étonné dans les évangiles de voir ces jeunes hommes juifs qui se lèvent, qui laissent tout et qui le suivent, tellement ils sont saisis. Eh bien, dans une lettre à un ami intime... Pier Giorgio Frassati ose écrire, sans aucune gêne, c'est une lettre incroyable, « Malheureux celui qui n'a pas la foi, vivre sans la foi, sans cette richesse à défendre, sans cette vérité à soutenir par une lutte de tous les instants, ce n'est plus vivre mais gâcher sa vie. À nous, il n'est pas permis de vivoter. Vivre est notre devoir. Faut abolir toute mélancolie. « Oh, les cœurs et en avant, toujours pour le triomphe du Christ dans le monde. » Il avait du courage et de l'audace. Aux étudiants catholiques complexés, parce qu'ils se croient des gars diminués puis condamnés à vivre en marge de la vie moderne, bien oui, ils sont catholiques, n'est-ce pas? Alors il montre, moins par ses arguments que par sa vie, qu'il n'en est rien. Lui, il marche décidé, sûr de son chemin. Dans un monde égoïste et aigri, il déborde de joie puis de générosité. Pourquoi? Parce que, selon lui, le véritable bonheur de la vie terrestre consiste à rechercher la sainteté. Oui, rechercher la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Là se trouve la bonne réponse à ce qu'on entend partout. Vous savez, on entend ça partout. Tant que vous êtes jeune, profitez donc de la vie. Quelle vie! Quelle vie! C'est les gens qui n'ont pas la foi qui nous disent ça. Hein? Vous profitez de la vie. On peut voir cette vraie vie chez Pier Giorgio Frassati. Lui, il en profite. Mais c'est pas la même vie. C'est la vie chrétienne. Hein? La vertu de pureté, d'ailleurs, illumine d'un éclat merveilleux Sa physionomie, qui est d'ailleurs séduisante, c'est un beau gars. On sait qu'il ne badine pas, lui, avec l'amour. Aussi, lorsque ses camarades veulent jouer un tour à des étudiantes, ils viennent lui demander son avis pour savoir si la plaisanterie est moralement correcte. Et le plus souvent, sa seule présence suffit à écarter des propos déplacés à l'égard des jeunes filles. Et parfois des propos un peu grivois, un peu cochons même. Parfois, ses camarades le taquinent au sujet de sa sévérité à l'égard de certaines choses. Il sourit, mais ne change pas un iota sa conduite. Il a en poche une carte permanente d'entrée à tous les musées de Turin, à tous les théâtres de la ville. Oui, il aime les pièces de théâtre, il aime les musées. Dans les musées, il ne regarde d'ailleurs, il faut le dire cependant, que les œuvres qu'il considère comme saines et de bon goût. Quant au théâtre et au cinéma, il ne s'y rend qu'après s'être renseigné sur la qualité du spectacle. Il ne veut pas voir n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une certaine valeur morale. C'est pas parce qu'il est stupide. Il n'ignore pas les réalités de la vie. Ni il connaît ses propres tentations. Les affections légitimes le touchent profondément, et pour garder d'ailleurs cette pureté profonde, cette chasteté dont on ne parle plus, il connaît des heures de lutte farouche et pénible qui sont ignorées de tous, sauf de quelques intimes. Voici d'ailleurs ce qu'écrit l'un d'eux. Il dit, ces combats qui impriment à la physionomie de notre ami Pier Giorgio un relief incomparable ont duré un certain temps et ont exigé de lui une énergie d'une trempe exceptionnelle. Il s'est appliqué à contrôler scrupuleusement ses actes, à éviter les occasions où auraient pu sombrer ses résolutions, à multiplier certaines austérités. La parole de saint Paul lui convient merveilleusement. « J'ai combattu le bon combat. Nous qui avons eu la grâce de vivre dans son intimité au cours d'une vie si brève et pourtant si lumineuse, nous savons avec certitude que la vertu, la sainteté, la rencontre avec Dieu sont le fruit d'un combat rude et continuel. » C'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Pier Giorgio Frassati, donc, je vous ai dit, est né à Turin, le 6 avril 1901. Son père, Alfredo, vous avez dit qu'il était agnostique. C'était le fondateur, savez-vous, et le directeur du fameux journal libéral La Stampa. Oui, La Stampa. Il était aussi sénateur. J'ai dit d'ailleurs qu'il était ambassadeur en Allemagne. Et sa mère, Adélaïde Amétis, A-M-E-T-I-S, peignait avec succès. C'était un bon peintre. Sa vie se déroulait entre Turin et Pollone, à 70 kilomètres de là, où la famille avait une belle maison au pied des montagnes. Avec sa sœur Luciana, dont je vous ai parlé, qui avait un an et demi plus jeune, Pier Giorgio est élevé à la maison avant de fréquenter en 1911 le lycée. En 1914, il est admis au collège tenu par des jésuites. Et les jésuites aujourd'hui font tout pour faire connaître Pier Giorgio Frassati, particulièrement la grégorienne, à Rome, m'a-t-on dit. Et il passe 2 ans chez les jésuites. Il trouve là le milieu favorable pour le développement de sa vie spirituelle. Il s'inscrit à la congrégation mariale. Ça existait dans le temps. J'étais membre de la congrégation mariale à Brébeuf. Puis à l'apostolat de la prière. Ça existe encore à Montréal, mais très peu. Au Jésus, on peut découvrir. Trouver des feuillets sur l'apostolat de la prière, ce sont les prières mensuelles, les intentions mensuelles. Puis il obtient la permission de communier tous les jours, ce qui était plutôt rare. Et cet amour de l'Eucharistie ne l'a jamais quitté. Pier Giorgio avait un profond amour de l'Eucharistie. Pour lui, la communion, c'était le centre de sa journée, le moteur de sa vie et de son apostolat, comme il a raison. Cette époque également se forge chez Pier Giorgio Frassati une profonde dévotion à la Vierge Marie. Il se rend souvent au sanctuaire d'Europa près de Pollone et la maison de campagne à la Consolata à Turin. En 1918, il a 17 ans, il s'inscrit à l'école polytechnique de Turin. où il choisit comme spécialité les mines. Et voilà la raison pour laquelle il veut devenir ingénieur. Il dit « Je veux être un ingénieur des mines », disait-il un jour à un ami, « pour pouvoir mieux servir le Christ parmi les mineurs. » La même année, Pier Giorgio Frassati s'inscrit à la conférence de Saint-Vincent de Paul. Vous connaissez ça, on en parle beaucoup de la Saint-Vincent de Paul, hein, avec la béatification de Frédéric Ozanam. Alors il aide spirituellement et matériellement les plus pauvres et les malades. Autour des malades, autour des malheureux, il disait « Je vois une lumière que nous n'avons pas. » C'est émouvant. Hein? Son apostolat s'étend également aux orphelins puis aux démobilisés de la Première Guerre mondiale. Et le peu qu'il a, il le donne aux pauvres qu'il considère comme ses maîtres. Mais surtout, cette charité implique qu'il se donnait lui-même, a-t-on écrit. Jésus me rend visite chaque jour par la communion et moi, je la lui rends bien modestement, comment? En visitant les pauvres. Dans ses fréquentes adorations nocturnes, il puise l'énergie nécessaire à sa vie intense de charité, dont la charte reste le texte de saint Paul qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13. Versets 1 à 8. En 1919, il s'inscrit à l'Action catholique. Ça n'existe, pour ainsi dire, plus aujourd'hui. Il y a l'Action ouvrière catholique, je crois, les jeunesses ouvrières, ça existe encore. Mais l'Action catholique, proprement dit, c'est presque disparu. Il s'inscrit donc à l'Action catholique et devient membre de la Fédération universitaire des étudiants catholiques italiens, la FUCI. Bien qu'il considérait ses études comme son devoir d'État, Pier Giorgio a su développer un véritable engagement social et même politique. Il devient un membre actif du Parti populaire dont le programme social s'inspire de l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, qui dit « La charité ne suffit pas, il faut des réformes sociales ». Et lorsqu'en 1921, son père est nommé ambassadeur en Allemagne, Pier Giorgio fait la connaissance de Karl Rahner, et du père Sonnenschein, le Saint-François de Berlin, avec lequel il vient en aide aux habitants des quartiers les plus pauvres de la ville. Il fréquente également des cercles dans lesquels il trouve réunis étudiants et ouvriers fascinés par cette expérience. En 1921, à Ravenne, au congrès de la Pax Romana, mouvement européen d'étudiants pour la paix, il lance l'idée d'unir la fédération des universitaires avec celle des ouvriers. Comme vous voyez, c'est un homme réel, concret, moderne, mais tout jeune. Aujourd'hui, donc, il est question du jeune, à mon sens, le plus intéressant de tous les jeunes que l'Église nous a proposés au XXe siècle. On nous a proposé quantité de jeunes intéressants. J'en aurai un demain, d'ailleurs, un jeune trinitaire qui est mort à 26 ans. Aujourd'hui, c'est un jeune qui est mort à 24 ans. Et Pier Giorgio Frassati, un Italien du nord, de Turin, qui était engagé politiquement, socialement, dans les sports, qui voulait devenir ingénieur, quel type moderne. Et la montagne était le lieu de prédilection de Pier Giorgio. Il aimait l'alpinisme. Il entraînait ses amis. Ces excursions-là étaient souvent l'occasion d'apostolat, d'ailleurs, et de prières en commun. On prie bien sur une montagne. Il n'hésitait jamais, d'ailleurs, à faire partager sa vie spirituelle à ses amis. Ça le gênait pas. Et ce sens de l'amitié le pousse à réunir autour de lui une bande d'amis qu'il a baptisé les types louches. J'ai bien dit, les types louches. Sens de l'humour. Ce groupe, c'est la seule création de Pier Giorgio, et était soudé par les liens de la prière et de la charité, mais aussi par l'amour de la montagne, puis le sens de l'humour, quoi. Chacun y portait un surnom, et Pier Giorgio lui-même se dénommait Robespierre, l'incorruptible. Robespierre. Il s'intéressait aussi à la culture. D'ailleurs, ses lettres témoignent de son intérêt pour l'art. Je vous l'ai dit, hein? Il avait une carte rentrer dans tous les musées. Il aimait aller visiter ces musées. Il allait aller au théâtre puis à l'opéra comme un bon Italien. Et les écrits de saint Thomas d'Aquin et surtout de sainte Catherine de Sienne, dont il sera question bientôt à Rencontre spirituelle, ont exercé une profonde influence sur Pier Giorgio Frassati. Ce qui, en 1922, bon, à 21 ans, le conduit à entrer dans le tiers-ordre de Saint-Dominique. Il choisit le nom de frère Jérôme. Pourquoi? Vous avez deviné peut-être, en hommage à Jérôme Savonarole. Pas n'importe qui, hein? Qui a été brûlé par l'Église, mais que le pape Benoît XIV a songé à canoniser. Il disait « Je suis un fervent admirateur de ce frère dominicain qui mourut comme un saint sur le bûcher. » Je vous ai fait d'ailleurs une émission sur lui le 23 mai 1996. Elle est disponible chez Marc Alexandre sur Jérôme Savonarole, 23 mai 1996, il y a près de 2 ans. Pier Giorgio Frassati se trouve toujours en première ligne lorsqu'il s'agit de défendre la dignité humaine. Il dit « Votre violence ne peut dépasser la force de notre foi car le Christ ne meurt jamais. » Votre violence, il s'adresse aux autres, ne peut jamais dépasser la force de notre foi, car le Christ ne meurt jamais. Si les martyrs meurent, et le Christ ne meurt pas, lui. Et c'est pourquoi le Christ est toujours vivant. Regardez tous les martyrs dans ce siècle. Encore dernièrement, il y a constamment des martyrs. On tue des cardinaux, des évêques, des prêtres, des religieuses. On les viole, on les tue. Et des centaines et des milliers de laïcs. Mais le Christ est toujours vivant dans l'Église. Dès les débuts du fascisme en Italie, il en reconnaît le vrai visage, il n'hésite pas à s'y opposer avec vigueur, comme il l'avait fait contre les communistes. En 1921, il a 20-21 ans, il participe à Rome à une manifestation organisée par l'Église. Il résiste à la violence de la garde royale en défendant la bannière de son cercle d'étudiants de la FUCI, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, cette fédération des étudiants. Et il est arrêté et jeté en prison. Mais quand on se rend compte qu'il est le fils d'un ambassadeur, on le relâche dans l'Italie. Voilà quel homme extraordinaire au cours de ses études à l'université. Son attention est attirée par une jeune fille qui s'appelle Laura Hidalgo. Oh. Il est passé par bien des difficultés, et elle aussi. Elle a une candeur, une grande bonté, foi vive, éclairée, agissante. Ça l'a impressionné. Peu à peu, un sentiment naît en lui. Il devient amoureux. Ça pourrait légitimement aboutir au mariage. Mais à mesure que cette affection grandit, il y a une appréhension qui l'envahit parce que ses parents, est-ce qu'ils vont vraiment accepter cette union? Oh, il lui semble que les démarches auprès des siens doivent fatalement aboutir à un refus. Puis il se trompe pas. Elle n'est pas de famille assez bourgeoise. Alors, renonçant à son projet, surtout à une affection très profonde, Pier Giorgio donne la priorité à l'amour de ses parents, qui sont en difficulté eux-mêmes dans leur foyer. Il veut éviter de créer un nouvel élément de tension chez ses parents. Parce qu'ils sont menacés par toutes sortes de désaccords. Ça fait preuve, ça montre le courage de Pier Giorgio Frassati. Ça, c'est le fruit d'un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime, au fond. Il dit à sa sœur, « Ce sera moi qui me sacrifierai, même si cela doit être le sacrifice de ma vie tout entière ici-bas. » J'ai peine à comprendre comment il a pu faire. C'est incroyable. C'est presque de la folie. Mais non. C'est ça parfois la sainteté. L'amour, l'oubli de foi, de soi, l'oubli de soi. L'oubli de soi manifesté par Pier Giorgio Frassati apparaît également dans ses engagements sociaux. Comme le dira le pape Jean-Paul II lors de la béatification, c'est en 1990 qu'il a été béatifié, le 20 mai. Chez lui, dit le pape, la foi et les événements quotidiens se fondent harmonieusement, si bien que l'adhésion à l'Évangile se traduit en attention aimante envers les pauvres et les nécessiteux. Sa vocation de laïc chrétien se réalisait à travers ses multiples engagements, des engagements associatifs et politiques, dans une société en pleine fermentation qui est indifférente et voire même hostile à l'Église, dit le pape. On peut dire que c'est comme ça aujourd'hui un peu partout, hein? Y compris ici, à Montréal, au Québec, chez nous. Je vous ai dit qu'il s'était inscrit à la Saint-Vincent-de-Paul. C'est dès l'âge de 17 ans qu'il s'est inscrit aux conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est là surtout qu'il fait l'apprentissage de la compassion surnaturelle. Il aime à rendre visite aux pauvres, il veut soulager leur misère au moyen de nourriture et de vêtements qu'il garde pour eux à la maison. C'est un gars débrouillard, hein? Il sait faire des économies. Oui, il sait faire des économies, il dépense pas n'importe comment. Il recueille. Il vend des timbres et des billets de tramway pour donner ça aux pauvres. Il fait la quête de porte en porte, même, au profit des pauvres. Un jour, un ami le croise dans une rue de Turin, puis il l'invite à prendre un rafraîchissement. Écoutez bien ça. J'aime beaucoup ça. Si nous allions plutôt le prendre dans ce bar-ci, dit Pier Giorgio, puis montre l'église Saint-Dominique. Comment résister à son beau sourire? Après quelques minutes de recueillement, comme ils vont sortir de l'église, le jeune Frassati s'arrête devant un tronc, celui où on dépose de l'argent pour les pauvres. Il souffle à voix basse à son ami, et le rafraîchissement qu'on devait prendre, eh bien, on le prend ici. Alors son ami comprend, puis il jette la somme d'argent qu'il devait dépenser dans le bar, ben il le met dans le tronc, en souriant évidemment parce que Frassati est toujours un peu séduisant par son beau sourire aussi. Il dit « Et je te rends la tournée », ajoute Pier Giorgio Frassati, qui glisse à son tour un petit montant d'argent dans le tronc. Dieu seul connaît tous les sacrifices que ce jeune étudiant s'impose. Il lui arrive, au milieu de l'été, de rester à Turin pour continuer à soulager les pauvres. Il pourrait évidemment aller travailler dans la fraîcheur de la campagne. Mon Dieu, on sait que pendant cette période, tout le monde s'en va, hein? Surtout chez les bourgeois, et personne alors ne se soucie plus de visiter les plus pauvres. Il y a un autre point que je voudrais souligner. C'est son zèle apostolique qui le porte aussi à œuvrer pour pénétrer d'esprit chrétien la mentalité, puis les mœurs, les lois, les structures de la communauté. Selon les déclarations de Vatican II, dans Apostolicam Actuositatem, dans une situation sociale et politique très tendue, Pier Giorgio Frassati, qui n'a que 20 ans, sent le besoin d'aller au-devant du peuple. Il participe donc aux activités de plusieurs associations sociales et politiques. Il n'a pas peur de s'afficher comme catholique convaincu. Il faut, pense-t-il, travailler aux réformes nécessaires en faveur des ouvriers, afin de faire disparaître la misère, et d'offrir à tous les niveaux de vie quelque chose d'acceptable. Il a compris que la conversion du cœur n'élimine nullement, mais impose au contraire l'obligation d'apporter aux institutions puis aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables pour qu'elle se conforme aux normes de la justice et favorise le bien au lieu d'y faire obstacle, comme dit le catéchisme de l'Église catholique. La tâche est difficile et Pier Giorgio Frassati s'en rend bien compte. Il écrit de par le monde, il y a tant de gens méchants et qui n'ont de chrétiens, hélas, que le nom et non l'esprit. C'est pourquoi je crois qu'il nous faudra attendre longtemps avant de connaître une paix véritable. Notre foi nous apprend quand même que nous ne devons pas perdre espoir de voir un jour cette paix. La société moderne s'enlise dans les douleurs des passions humaines et elle s'éloigne de tout idéal d'amour et de paix. Mon Dieu, qu'il était brillant, ce saint. Pour lui, il n'y a pas de solution à la question sociale, écoutez bien, en dehors de l'Évangile. Ne chassons pas l'Évangile de nos écoles de grâce. Devant entendu les nouvelles qu'en Afrique du Sud, les étudiants des écoles catholiques réussissent à 96%, les élèves des écoles neutres à 46%. ont vu chasser ça, ont vu transformer nos écoles. Oh, c'est vrai qu'il n'y aurait pas beaucoup de maîtres catholiques maintenant. Mais il faut, c'est clair, le secours de la grâce pour découvrir le sentier souvent étroit entre la lâcheté qui cède au mal et la violence. Qui, croyant le combattre, l'aggrave. C'est le chemin de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain qu'il faut. La charité représente le plus grand commandement social, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'elle respecte autrui et ses droits, puis elle exige la pratique de la justice. Seule, elle nous rend capables de charité, de justice. Elle inspire une vie de don de soi. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera, hein, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile de Saint-Luc au chapitre 17. Voici un fait curieux qui nous étonne, c'est pour le moins surprenant. Un jour, il surprend un camarade en train de lire un livre qui charrie des idées plutôt douteuses. « Ce livre ne te convient pas, lui dit-il, fais-moi le plaisir de ne pas le continuer. Aujourd'hui même, je t'en apporterai un plus beau. » Et de fait, dans l'après-midi, il lui offre quoi? Une vie de Jésus-Christ. Alors il lui dit, c'est pas précisément un roman, mais les idées en sont magnifiques. Il te fera sûrement du bien. Mais il y avait assez d'intelligence, de caractère, de charme pour pouvoir se permettre des choses comme ça avec beaucoup de fraîcheur. Hein. Il met aussi en œuvre la recommandation du pape Saint-Pie X. Hein. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans l'indifférence pour l'erreur ou le vice, où nous voyons plonger nos frères, mais dans l'audace de tout faire pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. C'est ce que nous essayons de faire ici à Radio Ville-Marie en vous faisant des émissions quotidiennes. Relever le niveau intellectuel et moral du plus grand nombre de jeunes possible et des autres. Pierre Giorgio Frassati, jeune et sportif, hein, est tout plein de vie, mais il perd pas de vue l'éternité. Il écrit « Vivre chrétiennement est un renoncement continuel, un sacrifice continuel, qui pourtant ne pèse pas comme il a raison. Si on pense que ces quelques années passées dans la douleur relative comptent bien peu au regard de l'éternité où la joie n'aura ni limite ni fin et où nous jouirons d'une paix impossible à imaginer. Il faut s'agripper fortement à la foi vivante, dit-il. Sans elle, à quoi servirait toute notre vie, ajoute-t-il? Rien. Nous aurions vécu inutilement. Il aime à penser très souvent à la mort. Il l'attend comme la rencontre avec Jésus-Christ. Quand il part en montagne, il se tient prêt à tout. Il faut toujours avoir la conscience en paix avant de partir, dit-il souvent, car on ne sait jamais. Et d'ailleurs, la mort d'un ami lui suggère ces lignes. Comment se préparer au grand passage? Et quand? Comme nul ne sait l'heure où la mort viendra le chercher, il est très prudent de se préparer chaque matin à mourir ce jour-là. Et après la disparition d'un autre ami, il écrit, en fin de compte, il a atteint le vrai but de la vie. Faut pas le plaindre, mais l'envier. Il étonne souvent ses proches par cette réflexion superbe. Je crois que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. C'est ce que je disais souvent à ma mère durant les 10 dernières années de sa vie. Oui. Je crois que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Comme il a raison et comme c'est vrai. Comme c'est archi vrai. Le 30 juin 1925, Pier Giorgio Frassati a 24 ans. Il va avec deux amis faire une promenade en barque sur le fleuve, le Pô. La partie est délicieuse, on s'amuse bien. Mais au bout d'un certain temps, Pier Giorgio se plaint d'une vive douleur dans les muscles du dos. Il rentre à la maison, il éprouve un violent mal de tête. Et le lendemain, la fièvre se déclare. Mais qu'est-ce que c'est? Personne n'y prête attention, car ce jour même, il y a sa grand-mère maternelle qui meurt. Le surlendemain, un médecin examine Pier Giorgio, et soudain son visage s'assombrit. Il demande à Pier Giorgio, couché sur le dos, de se lever. Il dit « Je ne peux pas. » C'est que les réflexes ne fonctionnent plus. Il ne sent même pas les aiguilles qu'on lui enfonce dans les jambes. Alors trois médecins éminents, évidemment, appelés par la famille, se rendent au chevet de Pier Giorgio Frassati et confirment le diagnostic fatal. Poliomyélite aiguë, de nature infectieuse. Il est épuisé de fatigue. Il demande une piqûre de morphine afin de pouvoir dormir, mais le docteur juge l'imprudent. « On ne peut pas, lui dit sa mère, cela te ferait du mal. Offre tout à Dieu. » Et le 4 juillet, vers 3 heures du matin, une crise très grave se déclare. Un prêtre vient lui administrer les derniers sacrements, mais là, la paralysie gagne peu à peu les organes respiratoires. Puis à 16 heures, donc à 4 heures l'après-midi, l'agonie commence. Et autour du lit, on ne cesse de prier. Le prêtre récite les prières des agonisants. Madame Frassati soutient son fils dans ses bras. Elle veut l'aider à mourir au nom de Jésus, Marie, Joseph. À ces mots, « Faites que je meure en paix en votre sainte compagnie », il exhale le dernier soupir. Il est environ 19 heures. Une atmosphère qui n'est plus de la terre règne dans cette chambre où la mort vient de passer. Tous à genoux sont accablés de douleur. On fixe les yeux sur Pier Giorgio comme poursuivre son âme très pure dans sa rencontre avec Dieu. La vraie vie a commencé pour lui. Jésus l'a promis, hein? « Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Hein? » Vous demandez où c'est ça dans votre évangile? Lisez bien le chapitre 6 de Saint Jean, lisez tout ça. Chapitre 6 de Saint Jean, vous verrez que vous irez à la messe tous les jours après ce temps-là. La messe et la sainte communion quotidienne donnaient à Pier Giorgio Frassati l'élan nécessaire pour affronter toutes les difficultés de la vie. Il écrit d'ailleurs à des enfants, « Mangez ce pain des anges et vous y trouverez la force pour mener les luttes intérieures, les combats contre les passions et les épreuves, parce que Jésus-Christ a promis à ceux qui reçoivent la Sainte Eucharistie la vie éternelle et la grâce nécessaire pour l'obtenir. » Puis il ajoute, « Quand vous serez entièrement consumés par ce feu eucharistique, alors vous pourrez en pleine conscience remercier Dieu qui vous a appelé à faire partie de sa légion. Et vous goûterez une paix que les gens heureux d'ici-bas n'ont jamais connue. Car le véritable bonheur, mes jeunes amis, ne réside pas dans les plaisirs de ce monde, ni dans les choses terrestres, mais dans la paix de la conscience. Elle est donnée seulement à ceux qui ont un cœur et un esprit pur. Évidemment que sa disparition a eu un retentissement extraordinaire. Ça a permis de révéler même à ses proches le vrai visage de Pier Giorgio. À son enterrement ont participé des milliers d'inconnus, comme je vous ai dit au début de l'émission. Ces pauvres qui ont été surpris d'apprendre alors que celui qui les servait était le fils du sénateur Frassati, ancien ambassadeur en Berlin. En 1932 a commencé le procès de béatification, puis en 81 s'est terminé le procès apostolique diocésain par la reconnaissance de la dépouille intacte, je dis bien intacte, de Pier Giorgio Frassati. Intacte. Le 20 mai 1990, place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II a proclamé bienheureux l'homme des huit béatitudes, comme il disait. Sa dépouille mortelle, qui reposait dans la chapelle familiale de Pollone et à la campagne, a été transportée où? Dans la cathédrale de Turin, où l'on conserve le Saint-Suaire. Si jamais vous allez voir le Saint-Suaire ou visiter cette cathédrale, le Saint-Suaire sera exposé dans quelques jours. Et encore en l'an 2000, allez vous agenouiller au tombeau de Pier Giorgio Frassati. Aujourd'hui, l'apostolat de Pier Giorgio se répand dans le monde entier. Il y a beaucoup de groupes de jeunes qui l'ont déjà pris comme saint patron. Jean-Paul II disait, ce sont ses paroles, en même temps que son amitié spirituelle, que je vous laisse comme programme, afin qu'en tout lieu de la terre, vous soyez, vous aussi, porteurs de la vraie paix du Christ. Oui, voici l'homme intérieur. Il est l'homme intérieur aimé du Père. car il a beaucoup aimé. Il est aussi l'homme de notre siècle, l'homme moderne, l'homme que tant aimé. Mais il n'avait que 24 ans. Il s'en est allé jeune de ce monde, mais dans la puissance pascale de son baptême, il peut redire à tous, à chacun d'entre nous, mais en particulier aux jeunes générations d'aujourd'hui et de demain, « Oui, vous verrez que je vis, et vous aussi, vous verrez ce que le jeune Frassati est un maître à suivre. » La prière, puis la contemplation, le silence et la pratique des sacrements donnent toute leur substance puis leur force aux multiples formes d'apostolat. Et toute l'existence vivifiée par l'Esprit Saint se transforme en aventure mystérieuse et merveilleuse, comme dit Jean-Paul II. Il proclame par son exemple qu'elle est bienheureuse la vie conduite dans l'Esprit du Christ, l'Esprit des Béatitudes, et que seul celui qui devient homme des Béatitudes réussit à communiquer à ses frères et ses sœurs l'amour et la paix. Il répète qu'il vaut vraiment la peine de tout sacrifier pour servir le Seigneur, tout sacrifier. Il témoigne que la sainteté est possible pour tous et que seule la révolution de la charité peut allumer dans le cœur des hommes l'espérance d'un futur meilleur. Pier Giorgio disait bien, je vous le répète, « Vivre sans foi, sans un patrimoine à défendre, sans soutenir dans une lutte continue la vérité, ce n'est pas vivre, mais végéter. Nous ne devons jamais végéter, mais vivre. »